édition spéciale Hard Rock 2012, Cob FM vous plonge au cœur de l'événement.
Bonjour Francis Métivier, vous êtes docteur en philosophie, professeur en lycée et auteur de Rock and Philo, publié aux éditions Bréal. Tout d'abord, comment vous est venue cette idée de mettre en parallèle les deux matières que sont le rock et la philosophie ?
Pour moi, ce sont deux expressions en fait de l'esprit que je connais depuis longtemps, depuis l'âge de 13 ans. La philosophie, je l'ai découverte par des cours de grec, je faisais du grec ancien au collège. On traduisait des petits textes de Platon, donc j'étais un petit peu fasciné par le personnage de Socrate. Et puis, au même moment, j'ai découvert les Who, Led Zeppelin, les Beatles. Et là aussi, il y a une fascination, enfin très différente, mais pour la guitare, qui me procurait des émotions, mais sans que je puisse expliquer la raison d'être de la chose, quoi. Cette technique de Jimmy Page, ces sons différents avec des effets de pédale. Voilà, j'ai découvert un monde assez surprenant que j'ai creusé. Donc les deux choses, je les ai toujours mises en parallèle malgré moi. Et le livre, c'est une manière consciente finalement d'établir de façon claire le lien qu'il y a entre ces deux disciplines que sont le rock et la philosophie.
Et vous êtes finalement le premier philosophe à vous pencher sur ce genre de travail. Comment expliquez-vous que c'est la première fois que ce type de recherche, en tout cas, tende vers ces deux matières ?
Y a une raison essentielle, c'est que le rock est une pratique récente au regard de l'humanité. Je sais pas quand est-ce que le rock est apparu, moi j'ai toujours du mal à fixer des dates, ça c'est une manie d'historien qui est pas du tout une exigence de philosophe, dire que telle chose, telle tendance ou tel art est apparu à telle date, moi je sais pas en fait, mais ce que je sais c'est que c'est assez récent, c'est peut-être les années 40, 50, j'en sais rien, mais je pense que pour prendre conscience de l'intérêt philosophique d'une expression qui n'est pas philosophique, il faut un recul, il faut du temps, donc je pense que si on a un petit peu tardé à faire le lien entre les deux, c'est lié tout simplement à la nouveauté du rock dans l'histoire de l'humanité. Après il y a quand même Deleuze qui a parlé un petit peu de, pas du rock, de la chanson pop, dans des cours, c'est-à-dire des lieux un petit peu confidentiels. C'est vrai qu'en France, dans le monde, il n'y a pas vraiment un philosophe qui se soit penché sur l'esthétique rock et l'intérêt philosophique du rock. À part quelques Américains dans des petits travaux, conférences, petits articles, mais pas de livres où le lien est fait de façon très systématique.
Est-ce que c'est une tendance actuelle ? Parce que je vois aussi qu'il y a pas mal d'associations entre le cinéma et la philosophie. Est-ce que c'est une tendance ou une recherche depuis les années 2000 à se pencher sur ce type d'association ?
Il y a une première chose qui apparaît à la fin du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle la pop philosophie, c'est-à-dire une réflexion philosophique sur des pratiques ou des objets qui ne sont pas en eux-mêmes philosophiques, mais qui présentent un intérêt philosophique. Donc ça, c'est une chose. La pop philosophie s'est aussi beaucoup développée par rapport au développement de la télévision, de l'image. Ensuite, depuis une dizaine d'années, il y a effectivement une tendance chez les philosophes français qui consiste à dégager l'intérêt philosophique de certains arts, relativement nouveaux là encore, comme le cinéma, les séries télévisées. J'ai un collègue qui a fait l'année dernière un livre sur la philosophie du joystick, des jeux vidéo, qui sont des philosophies en fait assez classiques, qui reprennent des analyses sur l'image, sur l'animation matérielle des choses, mais au regard effectivement de techniques qui sont aujourd'hui assez nouvelles, comme la vidéo, les séries télé, enfin nouvelles. Tant que ça, mais enfin quand même nouvelle par rapport à des arts plus classiques, oui, ou des formes d'expression plus classiques. Parce que les séries télé, je sais pas si ça relève de l'art en fait.
Tout est la question. C'est vrai que c'est un travail relativement conséquent. C'est un ouvrage de plus de 400 pages. Combien de temps a nécessité ce travail de recherche pour mettre en résonance les thèmes de la philosophie puis l'histoire du rock comme celle-là ?
Très honnêtement, en termes de recherche, côté philosophie, j'ai ce qu'il fallait. Côté rock également en fait, parce que j'en écoute depuis très longtemps. Puis je pratique aussi un peu le rock. Pour tout vous dire, ce qui a été un petit peu long, ça a été d'établir un sommaire, parce qu'il fallait mettre en corrélation, non pas un groupe, un morceau d'un groupe, non pas une philosophie, mais une idée d'un philosophe. Et il fallait couvrir, enfin mon exigence était de couvrir l'intégralité des problématiques philosophiques. Donc il y a eu un travail d'association, de corrélation et de combinaison qui a été un petit peu long, qui s'est fait au fur et à mesure aussi de l'écriture du livre. Mais l'écriture elle-même, la rédaction, ça je l'ai fait en 4-5 mois à peu près. Non pas parce que tout était là dans ma tête, ça c'est un peu fumeux de dire ça. Mais comme les corrélations étaient assez évidentes pour moi, il s'agissait, enfin le travail d'écriture était surtout un travail d'approfondissement d'une idée qui était déjà là. Donc finalement, entre le travail de conception et de rédaction, j'ai mis à peu près 5-6 mois, oui. Mais le travail de conception était déjà fait de façon plus ou moins consciente, en fait. C'est pour ça que c'est allé assez vite.
Et puis vous avez suivi aussi le programme au baccalauréat, donc c'est les sujets qui sont proposés, donc ça a été aussi une trame de commencement, j'imagine.
Oui, parce que le programme de philosophie terminale, à mon sens, est très bien fait. C'est un programme non pas d'auteur, mais un programme de notions et de problématiques. et qui couvre effectivement quasiment l'intégralité du champ philosophique. Donc j'aurais pu prendre une autre méthode, mais suivre le programme de Terminal, ça me semblait être une bonne méthode. Sans que le livre soit un manuel, ça permet aussi aux élèves qui accrochent assez peu avec cette discipline d'avoir une approche un peu plus accessible. Ça permet aussi aux gens qui n'ont jamais fait de philosophie de s'y mettre par le biais de quelque chose qui peut les intéresser comme le rock. Et puis ça permet à tous ceux qui ont fait un peu de philo en terminale mais qui n'ont pas vraiment accroché à l'époque de s'y remettre d'une manière un petit peu plus attractive. Voilà pourquoi effectivement j'ai choisi comme plan d'ouvrage des notions de philosophie en terminale. Ouais.
Et sans pouvoir dire que les philosophes sont des rockers, bon, qui ont une certaine manière dérange aussi à quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une association, enfin, un même état d'esprit qui est partagé?
Je crois que le rock et la philosophie couvrent les mêmes contradictions. C'est-à-dire que sur un plan politique, philosophique comme dans le rock, on essaie d'être relativement correct ou politiquement correct, enfin ça dépend qui. On finit par l'être en fait, parce que Mick Jagger est devenu très politiquement correct finalement. C'est un châtelain en fait. D'un autre côté, effectivement, il y a ce côté contestataire, subversif, un peu dangereux intellectuellement, et du rock et de la philosophie. On est dans les deux cas à la fois très conformiste et très révolutionnaire. C'est ça l'état d'esprit commun entre les deux champs, entre les deux pratiques finalement. Après, effectivement, on peut dire que certains philosophes ne sont pas des rockers parce que ce serait un anachronisme, mais ont un style de vie qui peut rappeler un certain mode de vie qui est propre au rock. Je pense par exemple aux philosophes de l'Antiquité qu'on appelle les cyniques, avec un philosophe qu'on connaît, Diogène, qui vivait dans un tonneau. Donc il avait un mode de vie effectivement assez rock'n'roll ou assez rock. Dans l'esprit et dans le livre, je le mets en corrélation avec Gainsbourg, qui lui aussi a fait du rock, mais aussi beaucoup de chansons, mais qui a un style très rock finalement, très cynique. Il y a des états d'esprit comme ça qu'on retrouve. Un philosophe comme Nietzsche, qui est un philosophe très critique, très subversif, parfois un peu insultant, on pourrait, sans faire de jeu de mots, dire que c'est un petit peu le punk de la philosophie. Donc il y a des modes de vie, oui, qui sont assez identiques parfois.
Et donc vous partez toujours du principe que le rock est un art avec une construction esthétique, qui est par conséquent gardien d'un certain nombre de principes, donc de l'homme, la liberté, le bonheur. On va revenir sur un exemple, là j'ai tiré au hasard sur le livre, entre l'exemple, c'est le rapport entre le devoir d'obéissance de Thomas d'Aquin et Nicotine Love des Bébés Brunes. Pouvez-vous l'expliquer?
Alors disons que le morceau des Bébés Brunes, Nicotine Love, apparaît comme un contre-exemple de la morale de saint Thomas d'Aquin. Dit comme ça, c'est pas très étonnant. Si je disais le contraire, sur Bébé Brune illustre la théologie de saint Thomas, ce serait assez surprenant. Donc en fait, il y a une idée chez saint Thomas d'Aquin autour de la notion d'obéissance. En gros, l'idée de Thomas d'Aquin en matière de morale consiste à dire qu'il faut obéir à l'autorité, que ce soit Dieu ou que ce soit les représentants de Dieu, donc les professeurs, les parents, donc une morale assez conformiste du devoir, centrée sur la notion d'obéissance. La chanson Nicotine Love, c'est un contre-exemple parce que c'est une chanson qui, dans son texte, prône au contraire la désobéissance, le fait de fumer, et dans les paroles, le fait de fumer, c'est aussi parfois une métaphore du sexe. L'idée qu'on fait une bêtise, qu'on désobéit à l'autorité, les gendarmes arrivent, on se moque un peu d'eux, même si on est pris, finalement, on aura vécu un bon moment en désobéissant. Donc il y a aussi un petit peu de cynisme, et puis une musique qui, à mon sens, est conçue aussi pour renforcer l'idée que le groupe veut exprimer. Donc ici, en temps normal, dans le livre Rock and Philo, la chanson rock vient illustrer, en tant qu'exemple, la théorie. Mais il y a quelques corrélations où le groupe fournit non pas un exemple, mais un contre-exemple, voilà, du philosophe.
Donc toujours sur la même démarche, l'association donc entre Noir Désir, la chanson L'Homme Pressé, et puis Machiavel et le pouvoir. Voilà, pourquoi ?
Machiavel critique pas le pouvoir. Machiavel, le prince de Machiavel, c'est un livre dans lequel Machiavel donne au chef d'État, au prince, des conseils pour prendre le pouvoir et surtout pour le garder. Comment on a la main mise sur un peuple, en fait, par des principes qui sont assez peu conformes à la morale. La ruse du renard et la force du lion. Alors l'exercice là avec Noir Désir et la chanson L'Homme Pressé, c'est de dire que l'homme pressé aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui a un pouvoir économique qu'un pouvoir politique. Ça c'est une idée assez répandue, hein, que de dire le vrai pouvoir aujourd'hui, il n'est pas politique, il est économique. C'est un petit peu ce que représente l'homme pressé, l'homme médiatique. J'ai plus les paroles en tête, mais enfin, il dit « je suis plus que politique, je suis l'homme médiatique ». Donc il y a quelque chose de supérieur à la politique. Donc en fait, sur le plan économique, la chanson de Noir Désir me permet d'illustrer ce que dit Machiavel sur un plan politique. La différence étant que Machiavel croit à ce qu'il dit, alors que ce que dit Noir Désir, c'est dit évidemment à titre critique. Enfin, on fait parler un homme pressé, un businessman, mais effectivement, c'est pour en faire la critique.
Est-ce qu'on peut dire que tout morceau de rock peut avoir un intérêt philosophique, finalement ?
Non. Mais ça, c'est le propre de tout art, c'est-à-dire que tout dans la peinture, par exemple, ne présente pas, à mon sens, un intérêt philosophique. Tout dans la musique classique ne présente pas un intérêt philosophique. Donc, je considère que le rock est un art parce qu'il répond à cette définition de l'art où, dans un genre, tout n'est pas vraiment artistique, tout n'est pas vraiment esthétique. Donc, effectivement, moi, les morceaux que j'ai choisis dans Rock'n Philo, ce sont des morceaux pour lesquels j'aurais tendance à penser qu'ils dégagent un intérêt philosophique ou un questionnement philosophique, mais ce n'est pas le cas pour tous les morceaux. Le Gabba Gabba Hey des Ramones, j'ai pas encore trouvé le sens philosophique. Il y en a peut-être un, mais voilà, c'est peut-être un petit peu court comme morceau, hein, je sais pas, un peu violent, un peu brutal, un peu instinctif. Enfin, mis à part le fait que ça puisse exprimer l'idée même de l'instinct et de la précipitation, voilà, il y a tout n'est pas philosophique dans le rock.
Et donc vous dites la philo éveille, le rock réveille. Est-ce que vous avez eu des anecdotes d'élèves, pas forcément très portés sur la philosophie, qui se sont finalement éveillé à cette matière?
L'anecdote inaugurale par rapport à Rock'n Philo, c'est il y a à peu près 3 ans, effectivement. Un lundi matin à 8h, une terminale d'élèves scientifiques. Les garçons dans le fond dorment, c'est l'hiver, il fait froid. Ils dorment, quoi, et ça m'énerve un peu. Mais je ne me mets pas en colère et donc je leur passe, parce qu'on est équipé maintenant dans les salles de lycée, je leur passe le Stairway to Heaven de Led Zeppelin, qui commence doucement, hein. Je les ai réveillés doucement. Hein. Effectivement, bon, on a écouté le morceau qui monte en puissance, ça a réveillé physiquement et physiologiquement certains élèves qui dormaient à moitié. Et à partir de l'écoute de Stairway to Heaven, j'ai pu enchaîner sur une analyse du scepticisme antique. Et le lien, c'est la phrase de Robert Plant qui dit « It makes me wonder », ça m'interpelle, ça m'étonne, je suis dans le doute. Ce qui est pour moi, « It makes me wonder », une expression du scepticisme, pas celui de Piron et des philosophes antiques, mais du scepticisme en général. Donc à partir d'une phrase clé comme ça, j'ai pu effectivement faire le lien avec de la philosophie. Je dois dire que j'étais assez content de les maintenir réveillés jusqu'à 10h. Donc c'est pas Piron qui les a réveillés, c'est Robert Plant et Led Zeppelin.
C'est vrai qu'il y a toute une forme d'accessibilité, parce que donc l'ouvrage Rock'n Philo, il y a une couverture très attractive, une mise en page. C'est votre souhait de rendre votre travail comme ça par une forme plus attrayante?
C'était pas mon idée de départ, parce qu'un philosophe considère que la philosophie en elle-même doit être attrayante, ce qui est une erreur de jugement. Tout l'intérêt de travailler avec un éditeur, en l'occurrence Bréal, c'est que l'éditeur effectivement fournit des idées qui peuvent accompagner de façon pertinente la réflexion. Effectivement, quand mon éditrice Cécile Colonna m'a parlé de couverture rock'n'roll, je me suis dit, bah oui, effectivement, on peut pas faire un livre sur le rock, un livre philosophique sur le rock, sans que la couverture soit rock'n'roll, en fait. Puis une certaine mise en page, un certain rythme aussi graphique qui est donné au livre, et puis une couverture effectivement qui décoiffe. C'est un montage où on voit pas mal de rockers mélangés à quelques philosophes. Puis cette espèce de disproportion, s'il y a plus de rockers que de philosophes, alors que dans le livre, il y a autant de philosophes que de rockers. Et le rock, c'est surtout du son et du texte, mais c'est aussi un petit peu de l'image. Enfin, un petit peu beaucoup, quoi. Des personnages, du maquillage, des clips, des logos. Pixies ont leur manière d'écrire leur nom. Les Who aussi, avec cette flèche qui monte. Donc, effectivement, le rock, c'est aussi visuel, c'est aussi graphique, et on pouvait pas faire l'impasse d'un travail de graphisme et de mise en page adéquate dans ce livre, effectivement. Et puis, un format carré, qui rappelle la forme du 33 tours, du 45 tours, et puis également du CD. C'est pas exactement les mêmes dimensions, mais c'est la même forme carrée, ouais.
Et c'est vrai qu'un ouvrage qui est sorti donc en juin 2011, oui. C'est ça, et qui a eu un succès, il y a eu une belle couverture médiatique, vous attendiez à cette reconnaissance?
Non, pas spécialement. J'étais très content, oui, de la reconnaissance médiatique. Quand j'ai vu un article dans Libération de Robert Maggiori, j'étais hyper content, quoi. Après, effectivement, on rencontre des gens, il y a toutes les radios de Radio France étaient enthousiastes. Effectivement, ça fait plaisir d'avoir une reconnaissance médiatique, presse, hebdo, quotidien, AFP, radio, quelques télés, quelques présentations télé. Je m'attendais pas à autant d'intérêt, effectivement. En même temps, avec du recul, ça fait 1 an maintenant. Pour moi, c'était une idée évidente. Je m'aperçois effectivement que les gens me disent, ouais, c'est une super idée. Et au fond, c'est évident, oui. Alors, c'est évident aussi parce qu'effectivement, le travail d'écriture fait que les choses tiennent la route. C'est pas non plus qu'une belle couverture. il y a un fond.
Il y a un contenu qui est présent.
Avec une belle couverture, on peut aussi se faire taper dessus, hein, s'il n'y a pas de fond, si les raisonnements ne se tiennent pas. La plus belle reconnaissance, pour moi, de la part d'un journaliste, c'est d'entendre le journaliste dire que le raisonnement se tient, en fait, que le lien entre la philosophie et le rock n'est pas tiré par les cheveux, qu'il n'est pas démago, et qu'effectivement il y a un véritable travail d'illustration de la philosophie par des exemples de musique rock.
Et le travail finalement continue, parce que vous avez développé avec vos élèves un concept de conférence-concert. Pouvez-vous nous en dire plus sur la démarche ?
Conférence-concert avec ou sans élèves en fait. Enfin, c'est des anciens élèves, hein, parce que les élèves actuels, ils ont le bac à passer. Donc l'idée, c'est qu'à partir de la publication du livre, donc j'ai eu des invitations à différentes conférences, à droite à gauche, et je me suis dit, au lieu de faire des conférences classiques, le mieux, c'est de faire une sorte de conférence-concert, enfin philo-concert, comme moi je fais de la musique, qui alterne sur une heure et demie une reprise, une explication philosophique, une autre reprise, une explication philosophique. L'explication philosophique a une durée qui équivaut à celle de... du morceau, quoi, 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. Donc ça s'enchaîne pas mal en fait. Une manière de présenter le livre, puis de présenter tout simplement l'idée, le concept même de Rock and Philo. Au lieu de faire des conférences, je parle pendant une heure et demie, c'est une alternance de musique et de propos philosophiques. Les gens accrochent assez bien, j'ai l'impression.
Et une belle tournée aussi de festival qui va venir sur l'été là. Donc c'est une manière aussi de rencontrer, voilà, de proposer un regard finalement assez nouveau par rapport à la musique qu'on peut proposer en concert, quoi.
C'est une manière, faire quelques festivals comme le Hard Rock à Saint-Brieuc ou alors les Francopholies bientôt, c'est une manière de voir comment au sein d'un contexte qui est purement rock, dans quelle mesure la philosophie peut avoir une petite place. Une grande place, mais une petite place. Alors, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais c'est une manière de dire, de venir dire dans un festival rock que le rock peut avoir une dimension philosophique. Ouais. Donc là, l'intérêt pour moi, il est là. Et puis de rencontrer aussi d'autres gens qui ne sont pas forcément des philosophes, qui ont travaillé aussi sur le rock, enfin des journalistes, des écrivains, des dessinateurs comme Luz que je viens de rencontrer. Ça montre effectivement qu'il n'y a pas non plus que le philosophe qui considère que le rock est digne d'intérêt. Il y a aussi beaucoup de gens autour du rock qui sont pas des rockers en fait. Voilà. Donc j'essaie de prendre une petite place effectivement très raisonnable, philosophique au sein d'un contexte qui est très rock, hein, comme celui des festivals. Ouais.
Et après le rock, vous avez trouvé une nouvelle porte d'entrée pour la philo. Vous sortez un nouvel ouvrage, Sexe et philo, le 4 juin. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu ?
Alors, le contenu, en fait, si vous voulez, il s'agit vraiment d'un livre sur le sexe, c'est-à-dire l'acte sexuel. L'homme et la femme en tant qu'ils font l'amour. Donc, pour être concret, il y a deux parties. La première partie, c'est sur les positions. Donc, j'analyse 10 positions à travers un intérêt philosophique en rattachant chaque position à quelques philosophes. Et la deuxième partie, c'est sur les pratiques. L'idée, si vous voulez, c'est que le sexe dans l'humanité est très diversifié. Donc, diversité de positions, diversité de pratiques, ce qu'on ne trouve pas chez les animaux, même les plus évolués. Et à mon avis, cette diversité a un sens. Et par rapport à cette diversité, j'aurais tendance à considérer que chaque pratique ou chaque geste ou chaque position a une dimension physique, ça évidemment, mais aussi un petit peu intellectuelle spécifique. Donc j'essaie d'analyser effectivement chaque posture sexuelle, au sens large, par une analyse philosophique. L'idée aussi, c'est que tous les ans, il y a un livre de philosophie qui sort sur l'amour. Mais l'amour, c'est pas le sexe. Il y a toujours une petite partie sur le sexe, avec le mythe de l'androgyne chez Platon, Schopenhauer, etc. Mais on n'entre pas, sans faire de vilain jeu de mots, on n'est jamais entré dans le vif du sujet. On a toujours tourné autour. Et là, c'est l'intérêt philosophique du sexe à travers ces différentes positions possibles et ces pratiques. C'est pas non plus un Kama Sutra, c'est pas un ouvrage technique, même s'il y a des illustrations. On a fait appel à Nicolas Poupon pour des illustrations. Mais c'est vraiment une philosophie du sexe en tant que sexe, quoi. Et pas autour.
Toujours la même composition, donc illustration, exemple, de la même manière dont ça a été le rock, rock and philo est composé, quoi.
C'est un petit peu la méthodologie, c'est-à-dire que, sauf que là, il y a une différence dans rock and philo. Dans chaque sous-partie, je pars de la philosophie pour arriver au rock. Et dans sexe et philo, par contre, c'est les deux sont véritablement associés dès les premières lignes de chaque chapitre et chaque sous-chapitre. Donc la méthode est un peu différente. Elle est un peu moins rigoureuse, moins carrée, je dirais, un peu plus littéraire dans le style d'écriture. C'est une écriture philosophique et littéraire un peu. C'est quand même un peu différent. Mais l'objectif reste le même, c'est de dégager un questionnement philosophique sur une pratique qui, elle, de prime abord, ne l'est pas, mais qui, si on réfléchit un peu, l'est finalement. Philosophique.
Très bien, merci beaucoup en tout cas Francis Métivier, auteur donc de Rock and Philo, publié aux éditions Bréal.
Merci pour cette invitation.